Les Slick John au couloir numéro 2. Allez, les Slick, c'est parti pour les Slick John.
De la performance de Jean-Baptiste Grange.
Je ne dis rien, Super Marquet. Je ne dis rien.
La c'est France le moment, entière. C'est l'instant. Alex, la France entière.
Parker inside. Pretty play from Tony Parker.
Du Pepsi Apéro.
La qualification pour la demi-finale de la Coupe du Monde au bout du soulier.
Alors je ne regarde pas.
Allez, mon petit bonhomme.
Du Pepsi Apéro.
Allez, Louis.
Allez, mon petit bonhomme.
Et bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour ce 33e magazine de l'Instant Sport. Ouais, n'en mets pas trop à Patrick Duvin. Hein, salut Patrick.
Salut à toutes et à tous et bon lundi.
Et ouais, t'as passé un bon week-end ?
Très bien, excellent, il faisait beau au chapitre dimanche après-midi. Vraiment un beau match, on en reparlera et vraiment une super ambiance.
Un match de rugby.
Exact, c'est ça.
Avec une belle victoire, le bonus, ouais, on va revenir dessus. Aurélien n'est pas là, il est à Paris pour le salon du bâtiment. On a perdu Luc également, tu sais pas où il est Patrick?
Ben, je crois qu'il est cop parce qu'il y a eu des inondations un peu dans le Gard, donc je crois qu'il a été réquisitionné.
Ouais, il éponge dans tous les sens du terme. Ouais. C'est ça, on va peut-être lancer une alerte enlèvement quand même au cas où. Luc est recherché et il fait son premier match ce week-end en tant que titulaire. Peut-être.
C'est pas son jubilé au moins.
Non, c'est pas son jubilé. Bon, donc peut-être qu'il se prépare aussi physiquement en épongeant. Salut Laurent.
Salut, bonjour tout le monde.
Salut. Tu as passé un bon week-end toi?
Ouais, très bon. Bricolage. Et un petit peu de sport. Et voilà.
Ah, ben bah, parfait. T'es en pleine forme quoi.
Ouais.
Ok, le retour de Corentin. Salut.
Salut tout le monde.
Alors, tu assistais à la première défaite du monde volley Lozère?
Alors non, j'ai pas eu la chance d'assister au match, mais j'ai eu quelques retours, quelques infos à vous faire passer.
Allez, on en parlera tout à l'heure. Notre invité aujourd'hui, eh bien, c'est un coach, le coach de l'équipe 2 de l'AFL, Maxime Tessier. Bonjour.
Bonjour.
Alors, je vais te monter ton micro. Maxime, un match compliqué hein, ce week-end.
Ouais, un match difficile à Rousson, une très belle équipe à l'extérieur, là-bas, chez eux. Donc voilà, une défaite, malheureusement la deuxième d'affilée, mais pas que du négatif à en tirer, il y a pas mal de positifs, notamment dans l'état d'esprit, dans ce qu'on propose dans le jeu, donc voilà.
Deuxième défaite d'affilée, mais... à noter contre les deux grosses écuries du championnat aussi.
Ouais, deux équipes très très costauds et qui je pense vont se battre pour la première place.
Non, la grosse écurie du championnat c'est l'AFL, Laurent, sache-le. Les deux autres c'est des prétendants, des outsiders.
Voilà.
On dit ça. On va revenir dessus en fin d'émission. On va commencer par une victoire, tu en parlais Patrick, celle du RCML. Le club de rugby mandois s'impose à domicile avec le bonus face à Toche Corbière, 36-11. Alors pour le RCML, 4 essais, Évrard, Bresson, Clémentique, Brunel, 2 transformations, Tichit et 4 pénalités. Toche Corbière, un essai et 2 pénalités. Un match qui paraît, quand on lit le résultat final, un match facile.
Oui, c'est vrai que Mand a fait voir toute sa maîtrise en ce début de saison. Alors, il y avait eu une coupure d'un mois parce que Mand avait été exempt une journée. Donc, ça faisait 4 semaines que le RCML n'avait pas joué de match officiel. Donc, il y a eu un peu de fébrilité en début de match, un peu trop d'adrénaline. Franchement, tu le sentais du bord de touche, une équipe qui était surmotivée du côté mandois et qui voulait trop bien faire, qui voulait mettre trop d'impact, trop de puissance, trop de jeu. Et donc, quelques fautes, quelques ballons tombés et puis une indiscipline qui était sanctionnée par un arbitre que j'ai trouvé quand même assez bon. C'est vrai que parfois à ce niveau on voit des arbitres, parce qu'au rugby on le sait, tu peux siffler des deux côtés sans qu'il y ait presque à redire, et donc là j'ai vu un arbitre hyper cohérent, et donc il y a eu un début de match un peu emprunté, puis la machine s'est mise en marche et je dois dire que il y a un pack mandois qui a fait quand même forte impression, avec une troisième ligne bon composée là du jeune Lafitte qui est recentré cette année en numéro 8, bon Vavogny aussi qui a fait des percées monumentales, et donc voilà, un 5 de devant aussi très très fort avec la recrue Clémentique en pilier gauche, bon, qui a marqué un essai que ses coéquipiers ont qualifié de tracteur. Il a emporté tout le monde sur une dizaine de mètres. C'était assez impressionnant. Et puis Nibili qui jouait en deuxième ligne ce match-là, qui lui aussi a mis quelques percussions qui ont vraiment laissé des traces dans l'équipe adverse. Mais il n'y a pas que ça. Il n'y a pas qu'un pack aussi à Mende. J'ai trouvé une animation offensive avec des lignes arrières qui ont envoyé du jeu, qui ont fait aussi pas mal de percées. J'ai trouvé Evrard en numéro 15 hyper tranchant. Bresson qu'on avait reçu dans cette émission qui joue maintenant en demi d'ouverture avec son compère Arnal qui est capitaine. Donc là aussi une bonne charnière et puis des lignes arrière qui attaquent à tout va. Tichit qui revient bien au centre. Brunel aussi, deux ailiers qui participent aux actions. Franchement, une équipe complète qui est pas à son maximum. L'entraîneur l'a souligné à la fin du match. Ils peuvent bien sûr faire beaucoup mieux, mais on sent vraiment une équipe bien lancée.
Quel entraîneur, le nouveau ou l'ancien?
Le nouveau, Loïs Morisson, qui s'est cassé le péroné sur un plaquage en Coupe du Languedoc, qui va être déplacé justement cette semaine, et bon, qui était en tribune parce qu'il attend d'avoir, que son diplôme soit entièrement validé pour pouvoir être sur le banc de touche. Donc il était en tribune de presse pour assister à ce match. Et avec ses béquilles, mais voilà, un coach qui est quand même apporte un renouveau. Hein. J'ai discuté avec 4-5 joueurs en fin de match. D'ailleurs, parmi ces joueurs, il y a un ancien footeux, Jérôme Morin, qui continue sa carrière au rugby, qui était remplaçant, qui est rentré aussi dans cette ligne arrière en fin de match. Donc quand on discute avec les joueurs, ben voilà, chacun souligne vraiment l'apport de ce nouveau coach qui était préparateur physique dans une autre vie, et donc à ce niveau-là, il est fait énormément travailler, comme Maxime, c'est vrai qu'il est pour préparateur physique aussi. Il apporte énormément, il est fait énormément bosser, et donc on voit vraiment une condition qui a rien à voir avec, c'est vrai, les saisons précédentes, et donc voilà, ça a mené un coup de boost, ce nouveau coach, tout le monde le dit, ben voilà, et la tactique, et donc pendant ce mois d'interruption, on a signalé aussi, ils ont fait un stage entre eux. Et donc, beaucoup de tableaux noirs, beaucoup de mise en place, un arbitre officiel qui est venu leur expliquer justement les différentes règles. Et donc, bon, on sent vraiment un renouveau du côté du RCM.
Là. Ouais, tu parais conquis, là.
C'est vrai, conquis par l'état d'esprit, la condition physique. On voit qu'il y a des combinaisons qui sont répétées en attaque. Un jeu vraiment structuré. Et voilà, des joueurs qui répondent à ce que le coach demande. Et puis entre eux, on sent vraiment une grosse solidarité. Mais ça, ils l'ont toujours eu parce que avec les défaites qu'ils ont enchaînées, ils étaient toujours là. Et donc maintenant que les résultats sont là, bon, il y a que 3 matchs aussi. Il faut bien sûr raison garder. Mais on sent vraiment quelque chose qui se met en place. Et bon, le prochain match est à l'extérieur. Et maintenant, il faut absolument cette victoire à l'extérieur. Parce qu'il y a eu une courte défaite pour le seul match qui a été disputé à l'extérieur d'un point, je crois, 11-10. On attend maintenant cette première victoire à l'extérieur pour vraiment jouer le haut de tableau et cette montée.
Ça serait bien de les inviter. On passe un message peut-être à travers la radio aujourd'hui, de les inviter.
On attendait qu'ils se fassent déplâtrer. Donc lundi prochain, peut-être, je vais l'appeler voilà. Dès cet après-midi, savoir si elle est libre pour nous rejoindre.
Un coach vraiment très disponible à la fin du match. Vraiment bon état d'esprit, et bon, c'est vrai que j'ai eu vraiment, c'est la première fois que je discutais avec lui, vraiment un très bon contact avec le coach.
Je suis pas sûr qu'ils acceptent de notre invitation, puisque rappelez-vous, l'année dernière on s'était un peu enflammé après les deux premières journées où il y a eu deux victoires, et puis c'était finalement les deux seuls de la saison, quoi.
Et oui, mais cette année ça change, il faut préciser.
Ouais, cette année ça change.
Ils sont dans un meilleur état d'esprit. Ils sont aussi dans une poule plus basse que l'an dernier.
Voilà, ils sont descendus puisque tu étais en division d'honneur l'année dernière, donc tu as fini dernier, donc tu as été rétrogradé en promotion d'honneur. Donc c'est vrai que bon, on sent quand même qu'il y a un petit niveau en dessous par rapport à l'année dernière, ce qui est normal. Donc toi tu es mieux, tu as des recrues, tu as un nouvel état d'esprit, et bon, tu as un championnat qui est un peu plus abordable que l'année dernière, donc tout d'un coup, ben immédiatement tu as des résultats qui viennent. Donc il faudra suivre cette équipe, et bon, ne pas hésiter à aller voir, parce que franchement, j'ai passé un excellent moment, et on voit du jeu, on a vu des essais, et puis bon, aussi c'est physique, hein, il y a des sacrés contacts. Donc voilà, un bon match de rugby, une belle après-midi au chapitre.
Allez, au classement, Mende premier, 11 points, il y a un match de moins. Nissan Colombier deuxième, 11 points, un match de moins, donc même nombre de points. Cruzy Saint-Chinian a également 11 points, mais à 4 matchs au lieu de 3. 4e Vinassan, 10 points, 4 matchs, et on va s'arrêter à 5e place. Montréal Malepère, 9 points. Prochain match, c'est contre qui?
C'est un déplacement à Murviel qui est un peu plus en dessous.
Avant-dernier.
voilà, dans ton classement.
Avec 7 points.
Voilà, c'est dimanche au prochain, déplacement là-bas. Donc, bon, il faudrait une victoire. On devient gourmand.
On veut une victoire, tu as raison. Une victoire également en handball avec le MGC qui s'impose facilement à domicile contre Loud, 33 à 15. Les filles ont également gagné de 2 buts, il me semble. Laurent, sur ces matchs, qu'est-ce que tu peux nous dire?
Je peux pas vous dire grand chose parce que je n'y étais pas déjà, mais bon, comme d'habitude et comme on s'y attendait à domicile, les garçons sont intraitables. Donc là c'est Loud qui a pris 18 points, donc il n'y a pas eu de miracle pour cette équipe de Loud. Et donc à noter la belle victoire des filles qui gagnent de plus de 29 à 27 contre une équipe de Langeac rageuse. Donc j'avais une envoyée spéciale au stade qui m'a dit un très gros match de Alexia Bergogne. Et puis il y avait quelqu'un d'autre qui était au stade et qui pourra mieux nous en parler aujourd'hui, c'est Maxime.
Tiens donc, Maxime, comme par hasard.
Qui aime bien aller voir les matchs de hand. Ouais. Peut-être qu'il peut nous en parler un peu plus.
Ouais, supporter privilégié de cette équipe. Bon, c'est vrai que c'est bien qu'elle continue cette aventure-là en coupe. Match plutôt maîtrisé, je pense que... Elles avaient un petit peu de marge sur cette équipe-là. Sur la fin, elles se sont un peu mis en difficulté. Elles ont laissé un peu revenir à 4-5 minutes de la fin. Mais bon, finalement, sans trembler, avec toujours 2 buts d'écart. Donc c'est bien, ça leur fait une compétition où elles peuvent prendre du plaisir, espérer ambitionner d'aller loin. Et puis aussi se confronter à des équipes d'autres régions. C'est ça qui est intéressant, comme là, Langeac, qui est dans le même niveau, mais dans une autre région. Donc je pense que pour elle aussi, c'est important pour prendre de l'expérience. Voilà. C'était un beau match.
Ouais. Tu veux dire quelque chose, Patrick ?
Oui, au niveau des garçons, mais là, je pense que si, Loud était c'est le même niveau que Mende, mais du côté, bien sûr, Auvergne.
Parce qu'en Coupe de France, en fait, ça se fait par niveau. Voilà. Donc là, c'est la Coupe de France des pré-nationales.
C'est ça.
Donc si le MGC a la chance de pouvoir recevoir au prochain tour, c'est quand même le top pour la Coupe de France, quoi, pour poursuivre l'aventure.
Ils peuvent recevoir... Ah non, ils peuvent recevoir l'handball Nord-Lozère ou pas du tout?
Non, parce que je ne pense pas qu'ils
aient
eu
dans la même division. Non, parce que l'handball Nord-Lozère ne sont pas en pré-national.
Voilà.
Et oui, mais s'ils gagnent, ils gagnent, ils gagnent, au bout d'un moment, les équipes se rencontrent. C'est championnat de France des divisions.
C'est une Coupe de France. C'est pas élimination.
Dans 7 matchs, je crois qu'il reste 6 ou 7 tours. Tu peux te retrouver en finale de Coupe de France à Bercy. Toutes les finales seront à Bercy.
Ah, c'est bon ça.
Donc, c'est pas mal aussi, quoi.
Ouais, exact.
Il n'y a que au foot au final où on fait toutes les divisions mélangées. Il n'y a que
c'est pas mal aussi. Tout est pas mal.
Oui, c'est la beauté du foot. Mais il n'y a que là que c'est possible. Sinon, il y a 3 écarts.
C'est vrai que le foot est quasiment le seul sport où vraiment le petit peut battre le gros. Alors que dans d'autres sports, le rugby, le hand et le volley, c'est quasiment impossible. Et le basket aussi, tu as entièrement raison. Pour le hand, si tu veux rajouter, samedi, il y a un énorme match là, pour les garçons. À 20h30 contre Palaja, donc il y a 2 premiers invaincus, et donc après en 3e il y a Mende et Palaja qui ont perdu un match chacun, et donc c'est samedi à la Vernade, donc un énorme match pour les Mandois en vue de l'accession.
On va être coincé ce samedi parce qu'il y a beaucoup d'énormes matchs, hein. Il y a ça, il y a le volley qui joue contre le leader, il y a l'entente Nord-Lozère handball. Le volet, c'est dimanche. Ah ben c'est déjà ça.
Par contre, samedi, il y a les filles et du volet, puisque j'ai
rappelle. Ah, oui, il faut qu'on y aille, ça.
L'invitation de Hamal.
Oui, mais on est censé être à Saint-Alban pour voir l'entente Nord-Lozère handball qui joue.
Mais je me demande s'ils ne font pas vendredi soir ce match-là.
Ah, peut-être.
Non, c'est parce que nous avait dit Florent.
Je ne sais plus. Il faut qu'on réécoute l'émission.
Il faut réécouter l'émission.
Si, le match NL.
Ouais,
c'est vendredi soir.
Ouais, HNL.
C'est HNL,
ouais. HNL, ouais. Justement, on les a reçus il y a quelques semaines. On a reçu l'équipe féminine. Un très bon week-end pour le handball Nord-Lozère en Coupe de France, Laurent.
Oui, alors donc, on va attaquer par les féminines qui ont gagné à Mauriac sur un score sans appel de 28 à 14. Donc, le seul fait du match qu'il y a eu, c'est que l'arbitre s'est planté d'heure.
Ah oui, j'ai vu ça. Et non, il est arrivé une heure en retard.
Sinon, à part ça, il n'y avait pas eu...
Forfait. Le seul arbitre qui va te déclarer forfait.
Ils sont à l'ouest, un peu là-haut, dans le Cantal. Hein. Et donc, sinon, les garçons ont gagné, eux aussi. Donc, c'était un Coupe de France, là aussi, deuxième tour. Les garçons ont battu Murat à domicile seulement de 2 points, mais c'est une belle victoire dans un match plutôt, évidemment, serré et tendu. Donc du coup, voilà, l'aventure continue pour les quatre équipes lausériennes de handball, deux équipes garçons, deux équipes filles. Donc c'est bien, bon niveau de handball en Lozère.
Alors j'ai reçu un message, c'est bien vendredi à Saint-Alban à 20h, les deux équipes du HNL qui jouent l'une contre l'autre. Les garçons, eux, sont exempts ce week-end. Allez, on passe au volet, première défaite de la saison avec le MVL qui perd à Puy-Gouzon 3-7-2 avec une équipe moins bonne qu'à l'habitude, Corentin.
Oui, c'est ça, donc première défaite effectivement pour le MVL ce week-end. Un match à l'extérieur compliqué pour les joueurs mandois. Il y a eu voilà, une baisse générale de niveau, de cohésion, mais surtout en défense et en réception notamment, des erreurs qui coûtent cher à l'équipe, un gros service de la part de Puy-Gouzon, une équipe qui en face est restée du moins soudée et costaud, qui a mis à mal la réception et du coup le jeu qui suit le jeu mandois, pardon, au niveau de la passe, etc. On a eu énormément de mal de passer pour passer au centre, tout ce qui était point de fixation, voilà, plein de petites stratégies qu'on connaît au volet.
Comment ça se fait ? Il manquait des joueurs ? C'était
non.
Ou c'est
non.
Un jour sans ?
Non, voilà, c'est un jour sans.
Exactement, voilà, c'était, on va considérer ça comme un jour sans et avoir,
ça arrive. Mais,
oui, ça arrive, bien entendu. Ils ont quand même attaqué fort hein, ce début de saison. C'est une défaite, c'est sûr, mais bon, c'est 3-2. Donc, je rappelle qu'au volet, une défaite 3-7-2 rapporte quand même un point pour l'équipe qui perd. Donc, c'est une défaite, mais on récupère un point. Et ce point est très important puisqu'il nous permet, au final, de nous classer premier sur le classement de score final à un point derrière du second, Toulouse.
Toactuc, 15 voilà. Points, c'est ça. Mende, 16 points. Toactuc, 15. Arles, 12. Puy-Gouzon, 7. Saint-Étienne, 6. Alès, 5. Narbonne, 4. Saint-Égrève, 4.
Alors, Saint-Égrève à 7, puisque Saint-Égrève a gagné 3-0 à Narbonne hier, après-midi.
Ah oui, je n'avais pas le résultat.
Donc, tu pourras ajouter 3 points à Saint-Égrève. Donc, Saint-Égrève repasse à 7.
Même nombre de points que Puy-Gouzon.
Voilà, c'est ça.
Ce qui serait bien, c'est que Puy-Gouzon ne termine pas dans les 4 premiers à la fin de la saison.
Voilà, et que Saint-Égrève termine
dans les 4 premiers.
Puisque tu as gagné 3-0 ou 3-1 contre Saint-Égrève.
Et on le répète, comme on garde les points acquis
oui.
En première phase et on les garde en deuxième phase, du coup, ça serait pas mal que Puy-Gouzon redégringole à la 5e place.
Alors, ce qu'on peut rajouter sur ce match de Puy-Gouzon, c'est que donc c'est à côté d'Albi, c'est la banlieue d'Albi. Et donc, d'après ce qu'on m'a dit, un tout petit gymnase dans une ambiance assez déchaînée, bon, même si c'était quand même, c'est resté correct et fair play, mais une ambiance terrible puisque les spectateurs sont quasiment à 2 mètres des joueurs et donc en particulier au service. Donc voilà, il y a vraiment eu des supporters qui sont là pour déstabiliser les serveurs. C'est leur rôle, donc il y a, tu vas avec tes grosses chaussures, avec ta grosse pointure, tu vas mordre, tout.
Oh là là, et donc, ça déstabilise là.
Donc ça met une pression. Ça met une pression un peu inhabituelle, et donc vraiment très proche, et donc ça, c'est vrai que ça a perturbé, ça a agacé largement les Mandois. Et donc, il y a eu un troisième set quand même, perd de 25-15, totalement loupé de la part du MVL. C'est surprenant de prendre un 25-15 contre Puy-Gouzon.
Ils sont pas malins parce qu'ils savent très bien qu'il y aura un match retour et que du coup, le public va aussi...
Oui, mais t'es plus loin. Donc
non, mais a priori, le match retour, ils vont le faire au lycée Chaptal. Il n'y a pas de tribune.
Voilà, il n'y a pas de tribune.
Tu seras
quasiment sur le terrain. Quoi.
Ouais.
Donc oui, une équipe mandoise qui a vraiment craqué en réception, Corentin le disait, ça a vraiment été le gros point noir de ce match. Un peu surprenant parce que c'était quand même un point fort depuis le début de la saison. Et puis, Corentin disait difficulté au centre, ça a été totalement matérialisé puisque tu as été obligé de faire passer Anthony Volé. Ton pointu au centre au cours du quatrième set, donc il a fait tout le quatrième set et tout le tie break au centre parce que justement tu avais un de tes centraux qui était vraiment très en dessous de son niveau habituel, donc tu as été obligé de le faire sortir et de mettre un central qui n'en est pas un. Donc c'est là aussi ça veut dire que Constant avait bien vu que certains joueurs n'étaient pas présents samedi soir. Donc il a été obligé de tout réorganiser son équipe. Au volley-ball, ça se fait vraiment quand tu vois qu'il y a une situation d'urgence.
Oui, il avait déjà fait quand même auparavant. Anthony, c'est déjà arrivé qu'il rentre au centre, mais c'est quand même, voilà, il remplace pas central titulaire. Il est quand même, voilà, son rôle en tant que pointu, c'est quand même pas le même jeu. Enfin, pour ceux qui connaissent un peu le volley, c'est pas du tout le même poste. Et bien entendu, ça... il est forcément moins efficace. Si Constant en arrive à faire ce changement, qui est pas, voilà, c'est vraiment secondaire.
Que ça n'allait pas au niveau des centres.
Voilà. C'est qu'il y avait un souci. Ouais.
Alors Laurent va nous expliquer ce qu'est un pointu.
Un pointu, c'est celui qui réceptionne les centres.
Non,
de...
non, non, il réceptionne pas, il réceptionne pas justement parce qu'il s'est pas réceptionné, donc il fait qu'attaquer. C'est comme Rouzier, tu vois, Rouzier, donc notre champion d'Europe, il fait jamais de réception, mais par contre il met 25 points par match parce qu'il fait qu'il attaque de partout.
Un pointu, c'est quand tu tires avec le ballon.
On appelle ça un pointasse.
Au volleyball, c'est pas pareil.
Ah bon.
Donc il faut
même
que
si Constant... tu peux récupérer maintenant le ballon au pied, même au volley-ball, hein, oui. ça compte. Hein.
Mais depuis toujours, non ?
Avant, je sais pas si tu
c'était
pouvais.
Plus réglementaire, il fallait que le pied soit posé au sol, c'était limité.
Alors que maintenant, tu peux carrément shooter, il n'y a pas de problème.
Est-ce que Constant n'aurait pas pu rentrer à ce poste-là ? C'était pas son poste à lui, quand il était joueur ?
Non, pas central.
Pointu.
Ouais. Il était pointu.
Voilà. Mais là, c'est les centrales qui ont changé, justement.
Les centraux, c'est...
Oui, pardon. Les centraux, voilà, c'est un pointu qui est rentré sur un poste de centrale.
Ah, d'accord.
Voilà. Et ouais, c'est comme si on mettait Maxime en goal demain.
Après ce troisième set,
ça serait pire encore.
Ouais. Après ce troisième set cataclysmal, Constant a été obligé de remodeler son équipe.
Bon allez, c'est un match sans, ça arrive. Le match sommet.
C'est une victoire, une défaite. Donc
ça va.
Par contre, dimanche à 15h, il y a le match au sommet puisque tu reçois Toulouse, la réserve de Toulouse qui joue en Ligue 1. Et donc Toulouse qui est second et toi qui es premier d'un point, donc match au sommet.
Voilà, et Toulouse qui recevait le troisième Arles, second contre troisième ce week-end. Toulouse qui l'emporte facilement 3-7-1. Donc ils sont en forme, ça va être un beau match ce dimanche.
Exactement.
Ok, on passe au football. PHB, Garloser, Badarou, Pera, Boker, 1-0.
Gagne à Beaucaire,
un but à zéro, ouais. Il reste en course. Badarou qui est troisième à égalité avec Vauvert pour la seconde place. Et Canabier qui est 16e, c'est un beau début pour un premier.
Oui, très bon début. Bon, Beaucaire, la réserve de Beaucaire, puisque la première joue un DHR, Maxime, je crois que c'est ça, un DHR. Et donc, belle victoire à l'extérieur, on sait que c'est jamais évident de gagner dans le Gard. Bon, Badarou vraiment surprenant ce début d'année. Vraiment très, très bon. Hein.
Je pense que la défaite...
Beau travail de Manu Méchaoui. Hein.
Voilà, beau travail de Manu, surtout au niveau du mental, parce que la semaine dernière, ils avaient perdu
contre
lamentablement
contre la Grande Combe.
Contre la Grande Combe, une équipe en dessous, en première division Garloser. Et je crois que du coup, ça leur a permis de se remobiliser, de beaucoup travailler à l'entraînement, d'après ce que j'ai compris, et de revenir encore plus fort pour ce match de PHB à Beaucaire. Ou alors c'est très difficile de gagner à Beaucaire, et donc bravo à Manu et surtout à ses joueurs.
D'ailleurs la Grande Combe qui a perdu hier en championnat
au Buisson
3-1, donc c'est pour dire, c'est vrai que là Badarou avait fait une contre-performance en Coupe Garloser.
Ouais, ça arrive. PHR Auvergne Langogne perd à domicile 2-0 contre Brive, une défaite logique, mais tout comme Badarou, Langogne est en haut du classement, un point derrière le leader Billon qui a 20 points, donc deuxième Langogne 19, suivent Vanda 18, Brive 18 et troisième équipe de Cournon à 17. Bon début hein, aussi.
Bon début de Langogne, mais c'est vrai que cette défaite est quand même surprenante à la maison, puisque Langogne restait sur des matchs vraiment contre le haut de tableau. Justement, un match nul à Billon, 0-0 le match précédent. Donc, on pensait que cette équipe de Langogne sur son terrain pouvait continuer cette marche et battre cette équipe de Brive. Mais bon, voilà, le football, il faut marquer des buts. Hein. Quand tu passes un peu au travers au niveau réalisme, ben, ça se paye cash. Donc, petite quand même contre-performance de Langogne hier.
Ok, on passe à Marvejols qui fait le spectacle ce week-end. Il fallait être sur le stade de Marvejols pour avoir des buts. 4-3 contre Saint-André de Sangonis. Un triplé de Diallo, 15e, 35e, 38e. Un but de Mendy à la 61e. En haut classement, Marvejols est en bas de tableau, mais avec 3 matchs seulement joués. Donc, c'est beaucoup moins que le premier qui a 6 matchs, qui est la réserve de 7 à 19 points. Marvejols, alors je regarde, qui est 8e avec 9 points. Donc, si on rajoute 3 fois 4, 12, il serait virtuellement premier. Bon, sachant qu'il y a plein d'équipes entre qui ont pas beaucoup de points non plus.
C'est un championnat un peu comme la DH qui est tronqué parce qu'il y a beaucoup de matchs en retard. Et en plus, il y a un exempt dans la poule de Marvejols. D'ailleurs, Marvejols a été exempt il n'y a pas si longtemps que ça. Mais bon, 4-3, tu mènes, tu te fais reprendre, et puis finalement tu arrives à l'emporter avec ce Diallo qui est vraiment un
phénomène. Ça fait un paquet de buts
déjà. Qui est phénoménal, qui a encore marqué 3 buts. Bon, il va devenir de plus en plus, il va tirer l'œil sur lui. C'est fort, forcément.
Si c'est pas déjà fait.
Voilà, si c'est pas déjà fait, on sait que déjà l'intersaison, il avait été pas mal sollicité. Mais bon, quand tu es en PHA, tu as quand même moins d'œil sur toi. Bon, là maintenant en DHR, s'il fait la même saison que l'année dernière, il est parti pour ça, voire même mieux. Bon, certainement, tout un tas de clubs, aussi bien ici en Lozère, bon, il n'y en a pas 50 qui peuvent s'intéresser à lui, mais on voit de qui on veut parler. Bon, il y a déjà joué d'ailleurs, mais aussi des clubs de l'Hérault ou du Gard, c'est vrai, il jouait. Mais tu l'as bien formé, Laurent, voilà. je pense qu'il se souvient de tes conseils, ouais. Exactement. Bon, il va forcément attirer les recruteurs.
Quand on faisait courir
là-bas
à Merwes, là, il y avait la moitié des chasseurs de Merwes qui avaient jamais vu un grand black comme ça qui courait à 60 km sur un terrain. Ça lui a fait une bonne expérience.
Une bonne expérience. Non, mais bon, c'est vrai que moi, j'ai l'impression vraiment qu'il progresse, parce que c'est vrai que des fois, tu pouvais voir certaines lacunes dans son jeu au but, dans ses contrôles. Bon, voilà, et bon, j'ai l'impression que maintenant, il progresse de semaine en semaine, et il est capable d'élargir sa palette. Et donc, tu l'as vu, sur le compte rendu, un contre un, il élimine maintenant son défenseur, et devant le but, il a toujours ce sang-froid qui lui permet de claquer. Bon, chapeau, et même plus maintenant, il s'y met des coups francs, bon, ça va être vraiment le top du top.
Ouais, on sait qui lui a appris
voilà,
à tirer les coups francs.
C'est Laurent qui lui a tout appris à ce niveau-là.
Ah, fais pas le mental, hein, parce que sinon il serait pas à ce niveau-là.
C'est un guerrier.
Moi, c'est le petit tac du coach.
Ouais. On passe en DH Auvergne, un match entre promus et zéro partout entre le NL et Clermont Foot. À noter la blessure de Jean-Christophe Rousset qui pourrait avoir une fracture du tibia. J'ai lu ça sur Midi Libre avec un choc avec le goal ce matin. Le NL qui reste 6e, mais avec un match de moins et 19 points, sachant que le premier Vichy a 21 points. Donc 2 points d'écart, mais un match de moins. Donc tout est jouable. Hein,
c'est hyper serré si tu regardes le classement, aussi bien en bas de championnat que. En haut, bon, il y a très peu d'écart et donc tout est possible. On voit vraiment un championnat hyper homogène en Auvergne. Et je pense que cette année, en Languedoc-Roussillon, on va avoir aussi ce championnat hyper homogène, en tout cas plus homogène que les années précédentes.
Oui, parce qu'on voit que l'avant-dernier, Volvic, a 14 points pour le même nombre de matchs, c'est-à-dire il n'y a que 5 points d'écart avec l'avant-dernier.
Voilà.
Il y a un match de moins aussi, Volvic, qui peut passer 9e en cas de victoire.
Il faut regarder devant, mais. Peut-être avec un petit coup d'œil dans le rétroviseur.
Ouais, non, c'est vrai que c'est hyper serré hein, cette année-là. Bon. Ça va être chaud jusqu'à la fin.
On suit bien sûr le NL. Allez, on passe à l'AFL avec l'équipe 1 qui ne jouait pas dans les autres résultats. Saint-Clément-Montferrier gagne 2-0 contre Bagnols-Pont. Carcassonne perd à domicile contre la Grande Motte. Ça y est, la Grande Motte qui commence à rattraper un peu ses matchs en retard et qui grimpe du coup au classement.
Ouais.
1-0. Et Conques qui gagne 3-0 contre Perpignan-Bavernay. Match remis à Frontignan, vous savez pourquoi ?
Frontignan joue en Coupe de la Région.
Ah, d'accord.
Et je crois que même ils ont perdu.
Ils ont perdu contre. Alors attends.
Une contre-performance, je crois. Contre une équipe qui était d'un niveau inférieur à la DH. Je ne me souviens plus non plus contre qui, mais ouais, ils ont perdu en Coupe de la Région.
On n'est pas pro, là, sur ce coup-là.
Ouais. Bah, ils auraient pu ne pas jouer, hein, quitte à perdre. Ils auraient pu jouer le championnat. Hein.
Comme ouais, mais ça, la Coupe est prioritaire. Là, ils n'ont pas le choix. C'est la Ligue qui décide.
Ok, au classement, Bagnols-Pont, 16 points. La Grande Motte, 13 points, mais avec 2 matchs de moins. Saint-Clément-Montferrier, qui est bien remonté aussi, qui a 13 points avec un seul match de moins. Et 4e Mende, 2 matchs de moins, 13 points. Donc, s'ils les gagnent, bien sûr, ils passent devant. Surtout qu'il y en a un qui est contre la Grande Motte. Donc, s'ils prennent 4 points, la Grande Motte ne les prend pas. Voilà.
Et oui, ce match de la Grande Motte qui avait été remis
la première journée.
À cause des intempéries. Mende était descendu, mais un orage terrible, terrain inondé, même des inondations à la Grande Motte et aux alentours. Donc, un voyage épique. Ouais. Et donc, il faudra le remettre. Mais c'est vrai que bon, tu vois la Grande Motte qui va jouer haut avec Bagnols, avec Narbonne, avec Aigues-Mortes aussi, qui a beaucoup de matchs en retard, mais qui sera là. Et, bon, peut-être Perpignan aussi, qui a beaucoup de matchs en retard. Mais bon, ce qui fait râler, c'est cette défaite contre Bavernay, puisque quand tu regardes, je crois qu'ils ont fait 6 matchs, Bavernay, 5 défaites, et la seule victoire, c'est contre toi.
Tu perds 3-0 contre Conques.
Bon, c'est dommage. Mais bon, bien sûr, tu es dans la course, et ben, tu reçois d'ailleurs Conques dimanche à 15h, et vous jouez un lever de rideau, je crois.
Exactement.
Voilà.
Alors, à midi et demi.
Ouais, c'est ça.
C'est ça. C'est peut-être Saint-Clément-Montferrier qui va être la surprise, qui est un promu, qui est des 3e. hein, avec 13 points, il y a match de
moins. Ouais, mais je pense pas qu'ils pourront vraiment se mêler quand même à la lutte pour la montée en tant qu'un pro mouille. Bon,
c'est un peu l'enjeu de.
Ouais, mais
de
voilà, c'est ça. Mais je pense pas que ce soit vraiment une équipe qui va t'embêter jusqu'à la fin pour jouer la montée. Il y aura d'autres équipes qui seront plus dangereuses.
Enfin, ils ont quand même un recrutement sur le bassin montpelliérain qui est intéressant. C'est juste à côté de Montpellier, c'est un club que je connais
un peu.
Ouais,
c'est plus facile.
Ils récupèrent pas mal de garçons qui se sont un peu perdus ou alors où ça se passe mal dans leur club. Ils ont quand même un effectif conséquent. Et avec des garçons de qualité, il faut faire attention quand même.
Mais c'est vrai que tu vois, on cite 5-6 équipes cette année, alors que les saisons précédentes, ils n'ont cité que 2 ou 3. Donc là, cette année, vraiment, il y a un gros championnat hyper serré. Bon, ça va être intéressant jusqu'à la fin.
Mais c'est mieux pour jouer à la montée.
Bien sûr, c'est beaucoup mieux qu'il y ait beaucoup d'équipes concernées. Quoi.
D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez vu, mais Paulin Pézenas, qui est monté grâce à un goal average meilleur que Mende, continue de cartonner. Hein, victoire ce week-end contre Marmande, 1-0. Et Paulin, qui est toujours premier avec 24 points, c'est hallucinant.
Est-ce qu'ils ont recruté
notamment l'attaquant de Carcassonne, là, à Bouche, qui avait marqué un paquet de buts l'année dernière. Donc, avec lui et Pouéis devant, je pense que ça doit être très costaud. Je pense qu'ils ont fait un recrutement intelligent, pas forcément conséquent, mais intelligent. Et on voit qu'il n'y a pas non plus un fossé entre la DH Languedoc et le CFA2 au travers des résultats de Paulin.
Oui.
Non, mais en plus, tu dis, tu recrutes un avant-centre de Carcassonne. Bon, mais Carcassonne, il joue en DH et pas les premiers rôles. Donc, le mec, il brille en CFA2. Donc, ça veut dire qu'il y a vraiment dans cette DH des joueurs qui peuvent vraiment jouer au-dessus.
Oui, mais ça, on en est persuadé. Ouais.
On en est persuadé, c'est vrai.
Allez, on passe à notre invité, coach de l'équipe 2, Maxime Tessier. Défaite ce week-end contre un prétendant au titre, Rousson, 2-0. 2 buts inscrits en première période sur ce match, Maxime. Comment ça s'est passé? Qu'est-ce que tu en as pensé?
Alors, comment ça s'est passé? Bon, déjà, c'est décevant de faire une deuxième défaite d'affilée. Mais bon, même si c'est deux gros morceaux de la poule avec Uzès et Rousson, là, c'est un match où on a été plus en difficulté en première mi-temps, où on prend un but à la 23e minute sur un coup de pied arrêté. C'est un petit peu notre défaut en ce moment, de prendre des buts déjà assez rapidement et sur coup de pied arrêté. Ensuite, il y a pour moi le tournant du match à la 30e minute, où on marque un but par la recrue Dorian Rebolosso, qui était avec nous ce week-end et qui marque sur un but refusé, sur une passe en retrait pour hors-jeu. Donc un peu rageant.
Et heureusement, il y avait trois arbitres officiels. Signalons-le immédiatement, quand même, parce qu'à PHEA, il y a des arbitres officiels. Heureusement.
Oui, bon, ils font ce qu'ils peuvent. Mais c'est vrai que l'arbitrage, des fois, on reste un peu sur notre faim. Après, on prend ce but qui nous fait mal aussi, là, juste avant la mi-temps, dans les arrêts de jeu de la première mi-temps, sur un centre au second poteau, une bonne remise en retrait, une super frappe à lucarne du numéro 10 adverse, qui était très bon. Donc ça nous fait un petit peu mal, mais malgré tout, comme toujours, on n'a pas lâché. J'ai vu des garçons solidaires qui avaient le refus de perdre, qui se sont donné tous ensemble jusqu'à la fin pour aller chercher quelque chose. Et on a été un peu mieux dans le jeu en deuxième mi-temps, en rectifiant 2-3 points à la mi-temps. Donc voilà, le score évidemment très décevant. Même si c'est un match difficile à aller gagner là-bas, il n'y en a pas beaucoup qui vont gagner là-bas. D'ailleurs, Uzès n'a pas été gagné là-bas, ils ont fait le nul. Mais bon, voilà, dans le contenu, il y a des choses intéressantes pour la suite, que ce soit dans le jeu et également dans l'état d'esprit, et surtout dans l'état d'esprit où, voilà, moi je suis fier de mes garçons et je pense qu'on va pouvoir faire de belles choses cette année.
D'accord. C'est quoi l'objectif de cette année?
Alors l'objectif en début de saison, c'était d'être dans la première partie de tableau, de voir un peu comment on se situait par rapport aux équipes adverses. Bon là, en l'occurrence, on a deux gros morceaux avec Rousson et Uzès, qui sont pour moi des équipes par rapport à la PHA où on a peu vu d'équipes de ce niveau ces dernières années. Donc, il faut faire avec, essayer de rester au plus près d'eux. S'ils viennent à faire quelques faux pas, être capable de passer devant, et sinon d'être au plus près de cette troisième place là, qui je pense est accessible pour nous et qui peut, on le rappelle, parfois être synonyme de montée.
Voilà. Vous descendez cette année, on le rappelle.
On descend de DHR, on a fait l'ascenseur en fait.
D'accord. Voilà. On revise pas la montée de suite quand on descend?
Ah, c'est toujours difficile de viser la montée quand on ne sait pas l'adversité. Là, il y a deux équipes qui ont beaucoup de moyens, qui ont des garçons qui ont joué au-dessus, voire très au-dessus. Donc forcément, on pondère ça à l'adversité. Mais c'est pour ça que l'objectif, c'est de jouer le haut de tableau. Et s'il y a un coup à faire, ben, on va surtout pas s'en priver, quoi.
Laurent.
Non, mais il y a déjà en début de saison, tu peux pas annoncer si tu joues la montée, parce que bon, Maxime l'a dit, on voit par rapport aux adversaires. Mais bien déjà sûr, avant de regarder aux adversaires,
pourquoi tu peux pas?
Parce que il faut être prétentieux, modestie.
L'équipe 1, elle annonce la jouer la montée.
Non, c'est surtout que dans l'équipe 2 de Maxime, il y a quand même eu un renouvellement de quasiment la moitié de l'équipe, si je me trompe pas, si ce n'est plus fait, même. Ouais. Entre les joueurs qui ont arrêté.
Ça qui est intéressant aussi, de nous parler ton effectif après.
Des joueurs qui ont arrêté, d'autres qui désirent jouer plutôt en 3 en loisir. Des recrues, des départs, des six demi. Donc avant de savoir quel est ton niveau réel, eh ben, tu ne t'engages pas à dire que tu vas jouer la montée.
Guiraud, calme-toi.
Non, mais ce qu'il faut bien souligner par rapport à cette équipe de la F1, c'est que tu sors d'une saison cataclysmale. Parce que non seulement tu descends, mais en plus tu termines quasiment à l'agonie, puisque les derniers matchs, tu es obligé d'appeler tout un tas de joueurs des U19 le dimanche matin. Parce que
des vétérans.
Voilà, des vétérans, exactement. Parce que tu n'es même pas sûr d'avoir 11 joueurs.
Laurent.
Non,
des bons vétérans.
Non, mais c'est vrai qu'on en rigole, mais bon, l'année dernière, tu n'es même pas sûr sur certains matchs de pouvoir aligner 11 joueurs. Donc tu termines complètement à l'agonie. Donc c'est vrai que bon, Maxime il récupère le bébé à l'intersaison. Bon, mais c'est vraiment pas évident. Et si tu regardes l'équipe présentée contre Rousson, ben, tu vois quand même que là tout le monde est concerné, parce qu'il y avait quand même une équipe avec des joueurs qui là aussi ont connu l'équipe une. Bon, ben tu peux citer il y avait la recrue, mais bon, s'il n'y en a pas la recrue, bon, il y avait Diédiou,
Christophe Loyer.
Loyer, il y avait Robert. Bon,
Contreras, Mordac,
Mordac. Bon, c'est des joueurs quand même qui étaient dans ce groupe élargi de la Une, qui ont fait quand même plusieurs saisons au niveau supérieur. Donc on sent que voilà, il y a quand même une motivation. Voilà, la machine est réenclenchée. Donc tu tombes servais sur deux équipes au profil complètement différent, parce que d'un côté tu as Uzès, bon, un club qui était en national, donc qui a été liquidé financièrement et donc qui repart du plus bas, donc de PHEA, et puis tu as Rousson qui c'est complètement l'inverse, c'est un club qui vient des profondeurs, puisqu'il y a pas si longtemps ils étaient en première division, ils jouaient contre Saint-Georges, ils jouaient contre Le Buisson, etc. Et donc là ils ont le vent en poupe et montés sur montés, et donc même en PHEA ils sont encore là pour accéder en DHR la saison prochaine.
Et on oublie une autre équipe, c'est quand même Aigues-Mortes, la réserve d'Aigues-Mortes.
Qui est premier.
Qui est premier.
Mais avec un match de... Ah, que vous jouez, vous enchaînez. Tiens.
Donc ouais. La réserve d'Aigues-Mortes, on ne sait jamais, une réserve, à quoi s'attendre, s'il y a des retombées de la Une ou pas. Donc voilà,
s'il y a des flamants roses.
C'est encore une incertitude.
C'est ça. Des flamants roses dans l'équipe.
Une équipe réserve, c'est toujours peu de visibilité de toute façon, avec les blessés, encore des retombées,
ils peuvent monter,
bien sûr. Ouais.
Ok, oui, parce que vous, finalement, bon, vous avez deux matchs de plus que le deuxième et troisième Uzès et Rousson, mais vous êtes quatrième au même nombre de points, avec 14 points, donc ouais, on n'est pas décroché, même s'il y a deux matchs de moins, ils n'ont pas gagné encore.
Hein. On n'est pas décroché.
Il faudra les recevoir après.
On est au quart du championnat, c'est un petit peu l'heure du premier bilan.
Et le public,
bilan,
c'est chaud. Hein. Des fois, il est près du stade, il dit « T'as vu tes chaussures ?»
Non, le public est chaud aussi chez nous. Ouais. C'est vrai que c'est une première partie de saison comptablement moyen, vu qu'on est à 2 victoires, 2 nuls, 2 défaites. Maintenant, dans le jeu et dans le contenu, je garde beaucoup plus de positifs que de négatifs. C'est ce que je répète aussi aux garçons. Faut pas tout jeter parce qu'on a perdu 2 matchs là d'affilée. Il y a de bonnes choses dans le jeu, que les garçons prennent du plaisir aussi à jouer dans cette équipe. Je pense qu'on a trouvé un petit peu notre place aussi dans le club. Il y a un intérêt pour cette équipe là. Donc c'est important parce que c'est pas toujours facile. Les garçons qui redescendent de l'équipe 1 jouent le jeu à 200% tout le temps. Les garçons qui montent de l'équipe U19 ont faim de faire leur place aussi. Donc cet amalgame-là a plutôt bien pris. Et puis surtout, ce qui fait notre force depuis le début de la saison, et j'espère que ça va continuer, et j'en suis sûr, c'est l'état d'esprit, parce qu'on a une équipe très solidaire, avec des garçons humbles, ça me tient à cœur. Et on joue vraiment les uns pour les autres, et on prend du plaisir ensemble. pour l'instant.
Belle preuve d'amour du club, des dirigeants aussi, puisque ce week-end, vous jouez à une ouverture de l'équipe 1 sur le stade d'honneur au stade d'Elmas, ce qui n'est pas courant ces dernières saisons non plus. L'équipe 2 jouait régulièrement à Roufiac ou au Cosdoge.
Tout à fait, ça c'est bien. Moi, j'en ai discuté avec certains dirigeants où je leur ai dit que plus on pouvait y jouer, mieux c'était pour nous, par rapport aussi au jeu qu'on veut pratiquer, parce qu'on veut essayer de poser le ballon au sol et de pratiquer du jeu en repartant de derrière. Donc c'est important d'avoir un terrain de qualité.
Un bon stade, ouais.
Et puis en plus, j'entendais que tout le monde était un peu overbooké samedi, mais donc du coup, là, dimanche, personne n'a rien. Il y a deux bons matchs de midi et demi à 17h.
Midi et demi, ouais. Mais il paraît que la 3, elle joue à 8h, du coup, parce qu'elle veut jouer avant. Donc 7h.
En fait, c'est la 2 et la 1 qui jouent en ouverture de nous. En fait.
Ah, c'est ça. 7 recrues, alors on en a parlé, Rebolosso, Damien de son prénom, c'est
Dorian.
Ça
Dorian.
Dorian, voilà, qu'on a annoncé dans cette émission. Toi qui l'as vu jouer pour ce premier match, le temps qu'il se remette en jambes, qu'est-ce que tu en as pensé?
Alors déjà, avant de présenter le joueur, faut un petit peu présenter le garçon, en tout cas les impressions que moi j'en ai eues. Un garçon très respectueux. Très poli, qui m'a fait une très bonne impression déjà humainement. Donc je pense que dans notre club, nous, c'est important de conserver les valeurs qui font notre force. Et après, un garçon sur le terrain de qualité qui va avoir de gros atouts, notamment dans le domaine aérien. Donc je pense que si on se projette un petit peu avec une association avec Fadil, ça peut être intéressant et complémentaire. Un garçon qui fait beaucoup d'efforts pour l'équipe, foncièrement collectif, parfois trop. Je lui ai dit hier après le match où sur certaines fois il doit jouer sa carte. Et c'est un garçon qui aime faire jouer les autres, qui aime faire briller les autres, mais qui va, je pense, être très utile pour l'équipe, qui va marquer des buts. Hier, il aurait dû en marquer un. Il aurait pu marquer après de la tête deux fois, notamment une qui frôle le poteau.
Mais il est pas très grand, il fait 1,80 je crois.
Il est pas très grand, mais il a un timing exceptionnel pour sa taille. Il est très costaud. Physiquement, c'est un bœuf. Et puis en plus, il s'échappe pas, quoi.
Patrick.
Non, mais tu parlais de Fadil. Donne-nous des nouvelles de Fadil. Il en est où là? On sait qu'il a été opéré, un peu l'échéancier et le retour est prévu pour quand?
Alors, il avait prévu de reprendre la compétition mi-novembre, fin novembre. Là, je crois que la reprise de la course, c'est incessamment. Je l'ai pas eu la semaine dernière, mais je l'avais eu les semaines précédentes. C'était en bonne voie, en tout cas. Tout se passait bien. Donc, c'est déjà ça qui est important aussi. Un travail de kiné, notamment. Donc, voilà, on est sur la bonne voie.
Bon, c'est une excellente nouvelle. Et puis, bon, pour ceux qui connaissent pas trop bon l'AFL, il faut quand même dire que Maxime, il a une longue histoire avec ce club, hein. Il a fait partie de cette épopée qu'a connu le club en tant que adjoint de Stéphane Sora. Et bon, voilà, l'année dernière ce tandem qui fonctionnait très bien a été rompu, hein. Bon, on va pas revenir sur tout ce qui s'est passé en coulisses, mais bon, voilà, ça n'a pas fait du bien au club, à mon avis. Donc là, ben, il revient en tant que coach de l'équipe 2. Et bon, je pense que c'est une bonne chose pour le football lausérien et en particulier pour le football mandois.
Bien entendu, Patrick. Merci de ces précisions. Et il faudra penser à prendre Laurent dans l'équipe 2, parce que nous, on veut qu'il joue dans l'équipe 1, mais s'il passe pas déjà par la 2,
il négocie.
On pourra jamais les coups francs, tu peux le faire rentrer.
Il négocie toutes les semaines, mais bon.
Il t'appelle.
Non, c'est lui qui m'appelle, pour conduire le minibus.
Je joue avec lui en 3, et ce qu'il montre, c'est pas suffisant pour l'instant. Donc, on verra.
Je joue avec des tocards à côté de moi, en milieu, notamment Maxime la semaine dernière. Maxime qui a des œillères, tu vois, le. Il est omnibulé par devant.
Ouais, il fait pas sur les côtés.
Ouais, il faudrait demander à ce qu'il joue avec nous, parce que je suis pas sûr que tout le monde serait d'accord quand même.
En tout cas, nous on est d'accord. On lance une pétition.
Tu n'essayes pas, tu peux pas savoir.
Tu peux pas savoir, c'est vrai. Allez, on fait une pause musicale, on revient avec l'actu nationale, internationale rapidement après Morshiba.
Do
Allez, c'était Morshiba, un groupe qui est cher à Luc, qui nous rejoindra la semaine prochaine. On a oublié de dire, concernant les filles du handball, contre qui elles jouaient le week-end prochain, Maxime, toi qui les suis.
Aucune info. Donc je vais me faire engueuler, mais je sais pas. On disait tout à l'heure, a priori à l'extérieur, vu que le dernier match à domicile était... le dernier match de championnat était à domicile, mais... J'avoue que là, je ne me suis pas rencardé.
Ah, t'as pas envoyé de texte, on ne te répond
mais
pas.
Si, mais
non,
trop lent, trop lent, donc on va voir. On donnera l'info.
Bon, on a encore un quart d'heure. On a encore un quart d'heure.
On va voir ça. Allez, fin de la Coupe du Monde de rugby. Bravo Laurent, tu avais le bon pronostic. La Nouvelle-Zélande, championne du monde, qui bat l'Australie en finale 34-17. Les Australiens n'ont rien pu faire face à ces Néo-Zélandais. Une belle finale, messieurs, je ne l'ai pas vue moi.
Un très beau match, une très belle finale, une très belle Coupe du Monde. Bon, avec des équipes
c'est
qui,
ce que tout le monde dit, ouais.
Voilà, c'est une, vraiment une Coupe du Monde réussie, des stades hyper, hyper combles, du jeu, et bon, c'est vrai que, bon, je me suis un peu réconcilié avec le rugby, bon, que j'ai trouvé un peu, voilà, moins passionnant que ce qu'on avait pu connaître dans le tournoi des Six Nations en particulier, puis là, c'est vrai que cette Coupe du Monde m'a réconcilié avec, avec ce sport, et bon, la finale a été vraiment, superbe, avec vraiment des attaques et de belles équipes, on s'est régalé.
200 millions de bénéfices, je crois, sur cette
voilà,
Coupe du Monde. Ce qui ne sera pas le cas la prochaine, parce que c'est au Japon et les stades sont beaucoup plus petits, mais bon résultat économique et bon résultat dans le jeu.
En
au
plus,
niveau des spectateurs, ça a carrément
plus,
explosé.
Le Japon devait construire un stade tout neuf pour cette Coupe du Monde.
Ça sera
et
pas
vu la crise même qui touche aussi le Japon, les dirigeants, le Premier ministre japonais a enterré le projet. Donc c'est pour ça, comme tu le dis, il y aura beaucoup moins de spectateurs que ce qu'on pouvait penser.
Moi, j'ai regardé le match, la petite finale, la samedi,
vendredi soir,
donc c'était Afrique du Sud.
Qui a gagné?
Argentine. C'est l'Afrique du Sud.
Non, c'est l'Afrique du Sud. Je me suis régalé. C'était un match, il n'y a jamais de temps mort, ça bouge beaucoup, ça n'a rien à voir avec, malheureusement, les matchs d'équipe de France, quoi.
On n'a qu'à faire une Coupe du Monde entre pays de l'hémisphère sud?
Non, pas seulement, parce que tu as quand même vu une équipe galloise qui était vraiment au niveau. On a vu des Écossais aussi vraiment surprenants. Et d'ailleurs, n'oublions pas que l'Australie, en quart de finale, passe contre l'Écosse sur une décision de l'arbitre vraiment contestée, puisqu'il a été reconnu que l'arbitre s'était trompé. Il n'aurait pas dû accorder cette pénalité, il aurait dû accorder qu'une mêlée aux Australiens. Donc ça aurait été pour eux beaucoup plus compliqué pour marquer. Donc l'aventure de l'Australie aurait pu se terminer en quart de finale.
Savez-vous qui est le meilleur marqueur de cette Coupe du Monde? Alors Laurent, il a sous les yeux, donc...
Non mais DC?
Non, de points.
De points.
DC, ou DC, vas-y, dis-moi DC.
Ben, DC, c'est Savea, il a raison.
8 essais, mais c'est pas essais. Des points. Des points, c'est Sanchez, merci Laurent,
un Argentin. Ouais. Le demi-ouverture. Hein.
Ouais, avec 97 points, le premier français est 12e, c'est Michalak avec 33 points. Allez, on passe au foot, Ligue 1.
Si juste, je peux pour rajouter un truc sur le rugby, c'est que moi, je suis pas spécialiste, mais j'ai trouvé quand même que chaque Coupe du Monde dans tous les sports donne un petit peu une indication sur l'évolution de ce sport. Et je trouve que la Coupe du Monde de rugby là nous a montré qu'on va vers une évolution vers du jeu debout, du jeu dans la défense, un peu moins d'occupation, on a vu un peu moins de mêlées, un peu moins de conquêtes. Donc je pense que c'est intéressant pour le spectacle et on s'oriente plus vers le jeu que pratiquent historiquement les nations du Sud. Et je pense que c'est aussi intéressant pour le spectateur.
Tu as raison.
Et c'est intéressant aussi pour la France, parce que n'oublions pas quand même qu'on parle même de ces nations du Sud, parlent du French Flair. Donc ça veut bien dire ce que ça veut dire. Un jeu porté vers l'attaque, on a eu des trois quarts qui étaient vraiment fabuleux. Bon, on a perdu tout ça. Et donc, bon, c'est un espoir pour la France, parce que justement, dans ce jeu de mouvement, on a quand même historiquement toute notre place.
Et est-ce que, bon, moi je ne connais pas, je vous le dis, est-ce que le Toulouse de Guinovès ces dernières saisons avait ce jeu-là?
Tout à fait.
Ouais. Pas ces dernières saisons, mais les saisons précédentes, philosophiquement, comme le dit Maxime, bon, Novès a été dans ce jeu à la Toulousaine. D'abord, lui, c'est un trois quarts qui jouait aussi à tout va. Et donc, quand il est arrivé entraîneur pendant bon, peut-être 10-15 ans, il a pratiqué ce jeu vraiment fabuleux. Et Toulouse était vraiment le club ou la province au monde vraiment extraordinaire. Bon, depuis quelques années, il avait réduit la voilure et Toulouse était revenu à un jeu plus d'avant pour justement s'adapter à ce top 14. Mais bon, on peut espérer qu'il revienne en équipe de France à ce jeu de mouvement qui a fait le Grand Toulouse il n'y a pas si longtemps.
Un joueur fait de redoublement de passes, c'est ça.
Exactement.
Allez, en football, avant de parler de la Ligue 1, on va parler de Ligue des Champions. Ça nous permettra de faire des pronostics. Paris Saint-Germain, son pastor et Marquinhos qui sont blessés tous les deux. Le Real, son Luka Modric, possiblement, qui s'est blessé à une hanche ce week-end. Et quiz de Benzema et de Bale, on ne sait toujours pas.
Ils pas sûr repris, qu'ils jouent. Hein.
Mais c'est pas sûr. C'est à Madrid, pronostic. On va commencer par notre invité, Maxime. Combien qui alors, gagne à combien?
Plus qu'un pronostic, être un supporter, c'est plutôt un souhait. Quand on est supporter, on ne peut pas être très objectif. Simplement qu'il soit capable d'aller faire le nul et pourquoi pas marquant. 1-1, ça serait bien. Comme ça, on passe devant au goal average particulier.
Ok, Patrick.
Bon, peut-être 1-0 pour Paris.
Ah, super.
Moi, je ne suis pas énormément, mais après tout ce que j'entends, moi, je vais peut-être faire l'assurance ou je ne sais pas, mais miser sur Paris aussi.
Le score
2-1.
Ok, Laurent, fais-nous rêver.
Je suis embêté parce que je voulais dire 1-0 pour Paris, Patrick l'a dit. Donc après, je voulais dire 2-1 pour Paris. Donc,
bon, 3-2, il te reste 3-2.
Tu peux le dire les mêmes scores.
Alors, je reste sur 1-0 pour Paris, grosse surprise.
Ok. Et toi? Moi, je vais dire un 2-2. Tiens, comme ça, on passe au goal average aussi.
On est confiant.
C'est bien, on est confiant.
Ouais, on est confiant.
Il faut l'être. Le match Lyon-Zénith qui a lieu le lendemain, le mercredi. Alors, on va partir dans l'autre sens, donc je vais donner mon pronostic. Lyon-Zénith, Lyon revient bien quand même. Zénith qui est premier de la poule, qui a fait forte impression au match aller. Donc ça va être compliqué, mais on va dire, allez, encore une défaite de Lyon 1-0 pour le Zénith. Eh oui, Laurent, c'est ça. Oui. Alors à toi.
Moi, je dis victoire de Lyon 2-0.
Match nul, moi, je vois bien 1-1, un partout.
1-0 pour Lyon.
Oui, Lyon sont obligés là de gagner. Et donc ouais. Après, le Zénith a des arguments offensifs très intéressants. On va dire 3-2 pour Lyon. Un bon match à regarder.
Ouais, ça fait des buts, ça. Ouais,
ça fait sur trois pénaltys litigieux, bien sûr.
C'est ça. Allez, on ne va pas donner tous les résultats de la Ligue 1. On va partir directement sur le match d'hier. Ce grand match, ce beau match, Patrick. Nantes-OM 1-0, digne des plus belles coupes du monde.
Digne de la Ligue 1.
Digne de la Ligue 1, ouais, déjà. Ouais.
Hors Paris, bien évidemment.
Ouais.
Non, alors... C'est vrai que si tu n'étais pas supporter de Nantes ni de Marseille... Bon, la soirée était vraiment longue. Bon, un match truffé d'erreurs techniques, en particulier en première mi-temps. Marseille est complètement absent pendant ses 45 premières minutes. Et puis en deuxième mi-temps, un léger mieux quand même, il faut le souligner. Puis un joli but de Nkoudou, la recrue, là, qui justement joue à Nantes.
Et qui est vraiment. Qui s'est fait siffler, non?
Et qui est vraiment prometteur. Bon, c'est à mon avis, une des meilleures recrues. Bon, bien sûr, oh là, ça n'a Diarra, même si il a fait Diarra son plus mauvais match depuis le début de la saison. Mais bon, ce jeune Nkoudou à revoir, à persévérer, bon élément.
Et Diaby a marqué.
Diaby a marqué à l'entraînement, ça fait le buzz. Bon.
Super.
Voilà.
Non, mais on parle pas plus de ce match. Hein.
Non.
Tu l'as vu? Non, tu as vu 10 minutes, t'as lâché.
J'ai vu 10 minutes et effectivement, ça semblait assez pauvre.
Ouais.
Autre info, on voit que les promus commencent à rentrer dans le rang avec Caen et Angers qui commencent à baisser de pied.
Oui, bon, ils ont fait un début de saison vraiment sur les chapeaux de roue. Et donc, on sait très bien qu'ils ne peuvent pas tenir sur à la longueur. Donc, les grosses équipes se rapprochent, Lyon, Monaco, Saint-Etienne.
Qui a gagné, ouais.
Bon, ils sont là. Ça va se jouer après pour la deuxième place. Car Paris vraiment a beaucoup d'avance, puisque si Marseille avait perdu, ça faisait 20 points d'écart entre Paris et Marseille au bout de 12 journées.
Ça paraît
hallucinant.
Ouais, c'est ça. En janvier prochain, on a une future grande région avec deux grandes villes,
que,
Toulouse et Montpellier.
Tandis que là, il n'y en a que 17 points d'écart, donc c'est quand même plus rassurant.
C'est plus rassurant. Ouais.
Donc Toulouse, Montpellier, deux grandes villes de notre future région avec un...
Deux grandes villes de rugby, tu peux dire.
De rugby, ouais, parce que triste match entre le 17e et le 19e qui accouche d'un 1 partout. C'est pas folichon hein, pour.
Non, mais il y a eu Loulou. Loulou est revenu sur le banc de touche, donc il s'est réconcilié avec Courbis. Donc voilà, ça va de suite aller mieux jusqu'à la prochaine sortie médiatique de notre ami Loulou. Bon.
On réfléchissait samedi, là, on était ensemble avec Ludo. L'année prochaine, il peut y avoir les trois équipes de la région en Ligue 2, quoi.
Ouais,
finalement. Montpellier,
Nîmes.
Toulouse et Nîmes.
Il peut y en avoir aucune aussi.
Il peut y en avoir aucune, mais.
En Ligue 2, non, on n'y montera pas, hein, je te rassure.
Non, mais s'ils descendent.
Ils peuvent descendre. Faut
qu'ils descendent. Ah oui, ils peuvent descendre.
Ils ont pris moins 11 points quand même.
Et les deux autres se maintiennent, il n'y aura plus en Ligue 2.
C'est vrai. Ah, donc bon. On est au moins des derbies hein, si on descend.
Bah ouais.
Au moins ça, quoi.
Non, mais c'est vrai qu'il y a là aussi, on parlait de Nantes-Marseille, mais bon, Toulouse-Montpellier, c'était guerre plus.
Et puis moi, j'ai attaqué dans la liste Lille, je vous garantis que c'était. C'est quelque chose.
Mais là, c'est à 14h, tu peux faire la sieste.
C'est ouais. Exactement.
C'est vrai que quand on regarde les scores, ça n'est pas arrivé cette Ligue 1. Bon, on va parler du championnat anglais avec Rémi Garde qui a signé Aston Villa, dernier du championnat anglais. Mais justement, c'est ma question.
Il est fou. Est-ce qu'il est fou? Oui, il est fou. Non. Il est fou parce que tu as déjà le capitaine d'Aston Villa, donc qui est un Anglais qui a été international, mais qui, bon, tout le monde l'a oublié, il s'appelle Richards, et donc qui a déjà dit que, bon, c'était bien pour les recrues, parce qu'il parlait français, donc ils allaient pouvoir comprendre, mais qu'il fallait pas qu'il oublie qu'il était dans un club anglais, donc il espérait que Rémi Garde était bon en anglais, parce que lui, si on lui parlait en français, ça lui conviendrait pas. Donc tu vois déjà dans quel état d'esprit il va être accueilli par les Anglais qui jouent dans ce club, et donc ils n'ont pas accepté ce recrutement Ligue 1, c'est-à-dire il y a eu Veretout de Nantes, il y a eu Jordan Ayew qui était à Lorient, il y a eu Gueye qui était monstrueux au milieu de terrain de Lille, et Amavi, celui qui jouait arrière-gauche à Nice. Donc c'est vrai qu'ils ont pris tout un tas de joueurs qui parlent français, et donc on voit vraiment que comme à Newcastle, tu as d'un côté les Français, d'un côté les Anglais, et donc ça peut pas marcher. Donc bon courage à Rémi Garde de s'aventurer dans ce club d'Aston Villa.
Rémi Garde qui a joué longtemps à Arsenal et qui parle très bien anglais. Hein,
bah oui. En fait. Non mais ça, quand j'entends ton capitaine, oui. Alors qu'il n'a même pas signé, qu'il met déjà un stop comme ça, bon, ça veut tout dire.
Sur l'ambiance qu'il doit y avoir. Tu peux dire l'ex-capitaine, du coup.
Oui, voilà.
Rémi Garde voilà, a quand même un sacré caractère, et puis il a quand même une dégaine plus anglaise que française, Rémi Garde. Et
c'est vrai qu'il est comme Wenger.
Il peut faire quelque chose, et puis surtout, ça fait des saisons qu'il ne fait plus rien dans le foot. Là, il doit se taper 150 000 euros par mois, et puis voilà.
Moi, je pense qu'il
peut faire que mieux qu'est-ce qu'il y a.
Ouais, il méritait mieux, peut-être, quand même. Que, bon, après, on ne sait pas. Quand on voit tout le monde a rigolé quand Ranieri a signé à Leicester, bon, qui a été sauvé miraculeusement l'année dernière. Et puis voilà, il a pris quelques joueurs de plus, dont certains qui jouaient en Ligue 1. Et bon, ben, Leicester, ils sont 3e ou 4e.
Et puis, avec un jeu fabuleux. A quand même certaines garanties, puisqu'il va coacher Jordan Ayew. Ouais. Ce qui est quand même une sacrée garantie en attaque, quoi. Il sait qu'il peut. Il peut claquer des buts, quoi.
Voilà, il claque des dames aussi. On est ouais.
Il va peut-être acheter un Koudou pour 1,5 million aussi, possible.
15 millions, un Koudou. Aux Anglais. Aux Anglais, ils ne regardent pas les prix. Donc.
Non, il va acheter un Koudou, puisque Lyon le voulait, donc il va. Allez. Il va le vouloir aussi.
Bah, on va s'arrêter sur cette info, Mercato, qu'on vous donne. Avant qu'on arrête cette émission, donc les filles, Maxime joue contre qui ce week-end?
Ouais, c'est bon, j'ai eu l'info, c'est à Ramon ce week-end.
Ah, voilà. Bravo.
Donc,
merci ouais.
Un long déplacement.
À Marie qui nous a envoyé ce message. Ok, allez, on se retrouve lundi prochain et on pourra débriefer le premier match de Luc Respond avec le BCM, la reprise, en tant que titulaire, sachant que le pivot titulaire est blessé, c'est Aurélien qu'on retrouvera aussi lundi prochain dans cette émission. Et on va appeler le
S'il
RCML.
Revient de Paris, parce qu'Aurélien doit avoir certaines attaches à Paris en ce moment,
ouais,
je crois.
J'ai l'impression.
On lui passe le coucou d'ailleurs, je sais qu'il nous écoute.
Il nous écoute en streaming, ouais. Et on l'aura lundi prochain, on va essayer d'avoir le RCML aussi. Allez, ciao les gars, à bientôt.
Bye bye.
Salut. Salut.
Ciao tout le monde.
C'est Leslie John au couloir en numéro 2. Allez Leslie, c'est parti pour Leslie John.
De la performance de Jean-Baptiste Grange.
Je ne dis rien, Super Marquet, je ne dis rien.
La c'est France le moment, entière. C'est l'instant. Alex, la France entière.
Parker inside, pretty play from Tony Parker.
Du tas de apéro.
La qualification pour la demi-finale de la Coupe du Monde au bout du soulier.
Alors je ne regarde pas.
Allez mon petit bonhomme.
Du tas de apéro.
Allez Louis.
Allez mon petit bonhomme.